bienvenue à tous dans le Mac de l'été.
Monseigneur l'astre solaire, comme je ne l'admire pas beaucoup, m'enlève son feu. Oui, mais de son feu, moi je m'en fous, j'ai rendez-vous avec vous. La lumière que je préfère, c'est celle de vos yeux jaloux. Tout le restant m'indiffère, j'ai rendez-vous avec vous. Monseigneur, mon propriétaire, comme je lui dévaste tout, me chasse de son toit. Oui, mais de son toit, moi je m'en fous, j'ai rendez-vous avec vous. La demeure que je préfère, c'est votre robe à froufrou. Tout le restant m'indiffère, j'ai rendez-vous avec vous. Madame ma gargotière, comme je lui dois trop de sous, me chasse de sa table. Oui, mais de sa table, moi je m'en fous, j'ai rendez-vous avec vous. Le menu que je préfère, c'est la chair de votre cou. Tout le restant m'indiffère, j'ai rendez-vous avec vous.
Bonjour Léa Seydoux.
Bonjour.
Quel est le texte que vous venez de nous lire ?
Alors, le texte que je viens de lire, c'est une chanson de Georges Brassens, qui s'appelle « J'ai rendez-vous avec vous ».
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Mag de l'été, le magazine culturel de vos débuts de soirée sur France Inter. Leïla Kaddour vous a tenu compagnie pour ce rendez-vous en juillet. Vous pourrez l'entendre encore chaque samedi dans sa série I Love Le Grand. Et c'est avec une immense joie que je prends désormais les rênes de votre rendez-vous quotidien où seront convoqués tous les arts. Vous avez l'habitude de m'entendre sur la musique classique le matin dans Classic & Co. Alors on écoutera à ce micro des musiciens classiques bien sûr, mais c'est vraiment l'éclectisme qui régnera ici en ce mois d'août puisque nous avons eu le désir de vous concocter une programmation pleine de grands écarts littéraires, chorégraphiques, plastiques, théâtraux, cinématographiques et même sportifs. Oui oui, il y en aura pour tous les goûts et je peux vous dire que j'ai hâte. Pour ouvrir le bal de vos débuts de soirée haussienne, vous l'avez entendu, c'est Léa Seydoux qui est avec nous. Sa carrière la mène depuis plus d'une décennie aux quatre coins de la planète cinéma, dans des contrées extraordinairement variées, passant du cinéma d'auteur aux blockbusters américains avec autant de naturel que d'à propos. Cette belle personne, cette belle épine, des titres des films de Christophe Honoré et de Rebecca Zlotowski qui l'ont révélée, est aujourd'hui une James Bond girl, une palme d'or. Sa personnalité appelle l'oxymore, féminité virile, sauvagerie douce, timidité culottée, exhibitionniste pudique. Léa Seydoux est une héroïne discrète. On la voit beaucoup sur les couvertures de magazines, mais elle est rare à la radio. Nous sommes très heureux de l'accueillir dans le Mac de l'été.
France Inter. Duh. Le Mac de l'été. Anna Sigalevitch.
Pourquoi vous avez fait le choix de cette chanson pour entrer avec nous dans l'émission aujourd'hui ?
Parce que c'est une chanson que j'aime énormément.
Vous écoutez beaucoup de chansons françaises ?
Qui me touche beaucoup. Mmh. Oui, j'écoute beaucoup de musique.
Et vous êtes sensible au texte des chansons, c'est important.
Je suis sensible au texte en général, oui.
Monseigneur l'astre solaire, comme je n'admire pas beaucoup, m'enlève son feu, oui, met son feu, moi je m'en fous. J'ai rendez-vous avec vous. La lumière que je préfère, c'est celle de vos yeux jaloux. Tout le restant m'indiffère, j'ai rendez-vous avec vous. Monsieur mon propriétaire, comme je lui dévaste tout, chasse de son toit, oui mais de son toit, moi je m'en fous. J'ai rendez-vous avec vous. La demeure que je préfère, c'est votre robe à froufrou. Tout le restant m'indiffère, j'ai rendez-vous avec vous. Madame ma gargotière, comme je lui dois trop de sous, chasse de sa table, oui mais de sa table, moi je m'en fous. J'ai rendez-vous avec vous. Le menu que je préfère, c'est la chair de votre cou. Tout le restant m'indiffère, j'ai rendez-vous avec vous. Sa majesté financière, comme je ne fais rien à son goût, garde son or, hors de son or, moi je m'en fous. j'ai rendez-vous avec vous. La fortune que je préfère, c'est votre cœur d'amadou. Tout le reste en m'indiffère, j'ai rendez-vous avec vous.
J'ai rendez-vous avec vous. Les mots de Georges Brassens pour ouvrir en musique notre émission.
Le Mac de l'été sur France Inter.
Votre été est intense, Léa Seydoux, puisque vous êtes en plein tournage du nouveau James Bond, dont le titre est pour le moment Bond 25. Est-ce que ça s'appelle encore comme ça pour le moment? D'accord. C'est un James Bond qui sera réalisé par Cary Fukunaga, hein, qui succède à Sam Mendes. Alors, je sais que vous êtes soumise à des clauses de confidentialité extrêmement strictes, donc je ne vais pas vous poser de questions compromettantes. Je ne vais pas vous traquenardiser, ne vous inquiétez pas. Mais tout de même, une question sur, voilà, sur le fait que vous retrouviez votre personnage de Madeleine Swann, que vous aviez incarné dans Spectre en 2015. C'est très très rare, les James Bond girls qui reviennent une deuxième fois, elles se comptent sur les doigts d'une main. Est-ce que vous étiez surprise qu'on fasse à nouveau appel à vous pour incarner une James Bond girl?
Oui, oui, j'étais surprise, mais je suis aussi très heureuse d'être de nouveau, de faire partie de l'aventure, parce que c'est quand même un plaisir inouï de faire ce genre de film. C'est très amusant.
Et un film comme James Bond, est-ce qu'on sent le mythe au moment du tournage? Est-ce qu'il y a une tension particulière? Est-ce que on a conscience pendant qu'on tourne qu'on est sur un James Bond? Est-ce que c'est particulier?
Celui-là est très différent du précédent.
Oui. Oui, c'est un autre réalisateur.
C'est un autre réalisateur et c'est vrai que l'ambiance aussi est très différente. J'essaye de pas trop penser, non, à la pression. Et c'est vrai que j'y pense beaucoup moins sur celui-là que le précédent, où j'étais plus intimidée.
Oui, vous étiez plus dans l'appréhension. C'était la première fois que vous tourniez avec Daniel Craig.
Oui, c'était la première fois. Et puis j'étais impressionnée par tout le contexte, toute la machine. Et finalement, faire un film, c'est toujours différent. Et puis en même temps, c'est toujours la même chose.
Alors, il faudra attendre un petit peu pour vous voir dans le prochain James Bond. Mais on va pouvoir vous voir dans peu de temps, dans un peu plus de 3 semaines, à l'affiche du nouveau film d'Arnaud Desplechin, qui est Roubaix, une lumière, qui était en sélection officielle au Festival de Cannes, qui sera donc en salle le 21 août. C'est un film dans lequel vous incarnez Claude. Rôle radicalement différent de celui de Madeleine Swann dans le James Bond. C'est une jeune femme qui est en situation de grande précarité. On écoute un extrait du film.
Bonjour madame. Police de Roubaix. On est ici pour l'incendie qui a eu lieu à côté de chez vous. Vous avez vu quelque chose?
Comme j'ai dit à vos collègues, moi j'étais en train de dormir. J'écoutais de la musique. Plus de ça, j'avais bu un coup, donc j'ai rien vu. À part quand ça a explosé, que les chiens, ils ont aboyé. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu les explosions, tout ça.
Vous vivez seule ici?
Avec une amie. Marie? Marie, viens une fois, s'il te plaît.
Et vous savez ce qui pourrait expliquer ce qui s'est passé, ou bien?
Bah, d'après ce que j'ai vu, c'est là que les fils électriques, ils ont commencé à prendre feu, tout ça.
Bonjour.
Ouais. C'est la police de Roubaix.
Et y a jamais de problème ici avec la maison brûlée? Enfin, des engueulades ou... Y a personne qui habite dans cette maison?
Ah ben non. Enfin, c'était en travaux d'après ce que la propriétaire, elle nous a dit.
Si, des engueulades, quoi. Enfin, des trucs banals, des crottes de chien en face de la porte ou quoi.
C'est votre chien?
C'est nos chiens, oui. Non, pas de vraies engueulades, non.
Mais y a déjà eu des soucis avec des jeunes ici qui venaient dealer?
Oh bah oui, des jeunes qui viennent foutre la merde, y en a plein, ouais. Tiens, regardez, là. Vous voyez le carreau, là? Y a le volet qui est défoncé.
Mais pourquoi est-ce qu'ils viennent ici? Vous les connaissez? C'est toujours les mêmes ou bien vous pourriez les reconnaître?
Moi, j'ai un gamin de 6 ans. Alors, franchement, même si je les reconnaissais, je le dirais pas.
Enfin, pas sur le PV, juste de façon informelle. Ça paraîtrait pas dans la procédure. En fait, à partir du moment où il y a votre nom sur aucun papier et où il n'y a pas votre signature, il n'y a aucune raison pour que vous soyez jamais envers
vous. Les gens sont pas cons.
Alors c'est la première fois, Léa Seydoux, que vous tournez avec Arnaud Desplechin. Vous êtes ici aux côtés de Roche Dizem et de Sarah Forestier notamment. Qu'est-ce qui vous a attiré vers ce film?
Alors d'abord, c'est vrai que j'ai été attirée par Arnaud Desplechin et j'ai eu très envie de travailler avec lui. Et il s'est avéré que le sujet m'a énormément plu.
Mais est-ce que par exemple, quand Arnaud Desplechin vient vous voir, s'il vient vous voir, vous dites oui a priori, parce que vous avez envie de travailler
priori,
avec lui?
Oui, bien sûr. Je pense que ça, c'est le cas de beaucoup d'acteurs, non? Oui. Enfin, il y a des gens qui suscitent le désir. Donc c'est sûr que Arnaud est quelqu'un qui suscite mon intérêt. Enfin, son regard sur le monde m'intéresse.
Alors c'est un film qui est un peu particulier dans sa filmographie parce que c'est un film qui est inspiré d'un documentaire qui lui l'a beaucoup marqué. Un documentaire sur la ville dans laquelle il a grandi, Roubaix, sur deux jeunes femmes. Voilà, une chose très très rare qui en fait qui avoue un crime en direct dans le documentaire. J'imagine que vous avez vu ce documentaire.
Oui, j'ai vu le documentaire après avoir lu le scénario et j'ai été fascinée par le documentaire, bien entendu. Et il y a aussi la ville Roubaix, qui est une ville qui me fascine.
Pourquoi ?
C'est une ville que je trouve très très belle.
Ouais.
Toutes ces maisons abandonnées, j'ai toujours eu une fascination pour les lieux abandonnés. Et puis le fait qu'elle ait connu la prospérité et son délabrement me touche vraiment énormément.
Et c'est une ville aussi qui habite beaucoup le cinéma de Desplechin. Moi, j'ai l'impression de connaître Roubaix par Desplechin.
Bah, bien sûr. Non, mais ça, c'est sûr, parce que c'est sa ville. C'est une partie de son histoire. Mais oui, c'est vrai que c'est une ville que je trouve vraiment, vraiment fascinante.
Oui, donc le fait qu'il y a des fantômes dans Roubaix.
Complètement.
Vous interprétez des rôles extrêmement différents, avec des metteurs en scène extrêmement différents. Voilà, on parlait du James Bond, aujourd'hui Arnaud Desplechin. On peut citer tellement de metteurs en scène différents avec lesquels vous travaillez. Là, en l'occurrence, vous êtes en train donc de tourner le James Bond et va sortir le film de Desplechin. Je sais qu'à la rentrée, vous allez tourner avec Bruno Dumont. Donc ce sont des univers radicalement différents. Comment est-ce qu'on fait le grand écart comme ça pour passer d'un film à l'autre ? Est-ce que c'est un grand écart ou finalement non ?
Oui, c'est un grand écart, bien sûr. On peut difficilement faire plus opposé, mais ça me plaît beaucoup aussi. J'adore surprendre.
Et est-ce que vos rôles, vous les abordez différemment selon la nature des projets ? Est-ce que vous avez des méthodes de travail qui changent en fonction du pays et de l'importance du film ?
Oui, sans doute, mais je me considère pas non plus une actrice très technique. Enfin, j'ai pas de technique particulière. Je ne crois pas avoir de rigueur, vraiment.
J'ai l'impression que vous êtes extrêmement travailleuse et modeste. Enfin, que vous avez la modestie
très
du travail en même temps.
Mais je pense que ma seule rigueur, si c'est une rigueur, c'est mon acharnement. J'ai une forme d'acharnement, mais je pourrais pas dire. Pour moi, c'est toujours. J'ai l'impression que c'est toujours assez chaotique, un film. Avant de commencer à tourner, c'est vague. Enfin, je veux dire, c'est comme. J'imagine que c'est un sentiment que peut avoir un écrivain devant la page blanche. Mais en même temps, il faut essayer d'organiser le chaos. Mais c'est ça, oui. Et ça, c'est quelque chose qui m'intéresse. Ça m'intéresse beaucoup. C'est vrai que quand on fait un film, c'est toujours... il y a plein de paramètres. C'est-à-dire qu'il y a l'histoire, le contexte social, la langue, la culture même du metteur en scène. Tout ça, c'est des choses qu'il faut prendre en compte. Donc en fait, moi, ce qui m'amuse, c'est aussi comme un déguisement. Enfin, de toute façon, c'est très paradoxal, parce que c'est à la fois un déguisement, et puis en même temps, j'ai une espèce d'obsession à chercher la vérité.
La vérité, ouais.
Quel que soit le contexte. En fait, je pense que j'aime jouer des rôles, des personnages qui sont... où je défends, d'une certaine façon, leur cause. Ma mission, voilà, c'est comme une mission, c'est de sauver mes personnages. Toujours. J'offre quelque chose, je pense, dans mes films. Enfin, j'offre en même temps ce que j'aimerais qu'on m'offre.
Qu'est-ce que vous aimez qu'on vous offre, vous, quand vous êtes spectatrice au cinéma ?
Ce qui me plaît, je crois, c'est le moment c'est le basculement. En fait, dans la vie, en général, c'est le moment où on...
Où on s'abandonne, ou on bascule, ou
une forme d'affaissement. Le moment où, justement, le masque tombe. Et c'est ça que j'ai envie de voir à l'écran. Et ce qui me plaît, ce que j'ai envie de voir d'ailleurs, dans la vie en général, ou même dans la littérature. J'aurais aimé être plus littéraire, mais je veux dire, c'est quand même, dans l'art en général, c'est une chose qui me touche. C'est le basculement. Voilà.
On va écouter une réalisatrice qui est importante dans votre parcours. Vous avez tourné deux films avec elle. Je vous propose qu'on l'écoute parler de vous, c'est Rebecca Zlotowski. Vous avez rencontré Léa il y a un petit moment déjà, c'était en 2010, pour votre premier film, Belle Épine. Comment est-ce que vous avez eu l'envie de la faire tourner ? À l'époque, elle avait tourné seulement un ou deux films, on l'avait vu dans La Belle Personne et dans Mes Copines, mais c'était encore une toute jeune actrice, et vous, c'était votre premier film.
Ah là là, Léa, c'était donc 2010, donc c'était il y a 9 ans. Léa, elle a été associée quasiment tout de suite à mon projet de film, à mon idée de film, à mon désir. Léa Seydoux, c'est une actrice dont j'avais vu le visage, connu le corps, la manière de parler. Je me souviens, je l'ai souvent dit, il y avait l'affiche du film de Christophe Honoré, La belle personne, qui a accompagné tout un hiver. Elle était dans Paris, l'affiche était très belle, sur un fond rouge, très tranchant. Il y avait le visage de Léa qui était comme décapité, coupé, avec sa chevelure blonde comme ça qui ruisselait. Et je me souviens donc de la puissance de cette affiche, de la puissance de ce visage. Et quand il est question de distribuer le rôle titre de Belle Épine, je me posais ces questions face à ce visage de Léa Seydoux. Et très rapidement, j'ai souhaité la rencontrer. J'ai vu le film d'Honoré dans lequel elle m'a éblouie. Je la trouvais sensuelle, solide, minérale, donc un peu indéchiffrable. Et elle portait déjà ce qui, pour moi, me semble l'une de ses qualités, de ses vertus les plus fortes, et ce qui me semble les plus louables chez une actrice aujourd'hui, une certaine idée de la représentation de son sexe qui était neuve. Elle était sans minauderie. Elle représentait une jeune femme en qui je pouvais m'identifier parce qu'elle était... Alors, bien sûr, la beauté d'une actrice, mais avec quelque chose de phallique, quelque chose de viril en elle, de puissant, en fait. Et ça m'a séduit tout de suite. On a fait peut-être un tout petit bout d'essai, mais qui était anecdotique, qui était une blague, quoi. J'avais décidé que ce serait elle. Et j'avais décidé non seulement que ça serait elle, mais que j'en verrais aucune autre. Et cette force de contrat, cette force contractuelle qu'il y a eu entre nous, qui était que j'allais en voir aucune autre, que ce serait elle et pas une autre, et que le film n'était même pas encore financé, ça a créé une responsabilité mutuelle très forte. Et donc Léa s'est investie pleinement dans ce film, et moi je l'ai investie pleinement tout de suite de Prudence Friedman, qui était l'héroïne de ce premier film, Belle Épine. Voilà, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, et c'est comme ça qu'on s'est aimés.
Et quelle actrice vous avez découvert sur le tournage ?
Je me souviens qu'à l'époque, elle avait un mode de fonctionnement qui a beaucoup changé ensuite, puisque quand je l'ai revue, elle a tourné avec Abdelatif Kechiche, elle a tourné avec Woody Allen, elle a tourné avec... D'ailleurs, bon, elle a quand même une palme d'or qu'elle copartage avec un réalisateur, parce que à ce degré-là, en fait, de fabrication intuitive, instinctive d'une carrière, je dis carrière, c'est un mot qui semble laid pour des Français, mais je trouve très beau, carrière au sens de la carrière de Suzanne chez Romer. C'est-à-dire, qu'est-ce qui prévaut au gouvernement d'une vie, quoi ? Qu'est-ce qui nous amène dans une vie ? Bon. Et que parmi toutes les actrices françaises, c'est sans doute celle qui co-réalise les films autant. Enfin, je sais que souvent des Pléchins parlent de Deneuve en disant Deneuve, elle co-réalise des films, ou il y a des films réalisés par Deneuve, ou des films qui sont des films de Deneuve. Bon, c'est un peu pareil avec Léa Seydoux.
Rebecca Zlotowski parlait de votre évolution entre Belle Épine et Grand Central, voilà, qui était 3 ans plus tard. Il y a eu en effet pas mal de films entre les deux, hein, le film de Benoît Jacquot, Les Adieux à la Reine, de Woody Allen, de Ousmanov aussi, hein, le roman de ma femme. Et puis, bien sûr, le film d'Abdelatif Kechiche, dont parlait Rebecca Zlotowski, La vie d'Adèle. Rebecca disait, vous avez partagé une palme d'or, mais non, ils ont. Vous me disiez quand on écoutait parler Rebecca Zlotowski qu'en fait ils ont inventé quelque chose pour vous qui est la construction de 3 palmes d'or. Oui, après, en fait,
c'est comme ce que disait d'ailleurs Rebecca sur le fait de faire le film. Oui, on peut dire que sur ce film-là, on a fait le film avec Adèle d'une certaine façon, au même titre que Abdelatif.
Oui, Kechiche. Vous êtes senti vraiment co-auteur du film toutes les deux aussi. Hein.
Enfin. Ouais. Oui, je pense qu'un acteur fait toujours son propre film dans un film.
Est-ce que c'est un film qui a une place particulière dans votre parcours ?
Ce sont des expériences qui vous transforment à tout jamais.
Et ça a transformé votre façon d'appréhender votre métier, votre jeu d'actrice ?
Oui, mais vous savez, c'est le cinéma en général m'a appris le monde, vraiment. Le cinéma m'a tout appris. Et ce film était évidemment une expérience à part. Par rapport aux autres, c'était au-delà d'un film. Et puis c'est toujours, je veux dire, faire un film, c'est aussi, c'est toujours une expérience. C'est que c'est la vie autour, c'est ce qu'on traverse qui m'intéresse.
Et ce que vous avez traversé, ça a été aussi très dur sur ce tournage.
Ça a été très dur et en même temps, c'est vrai que c'était très intéressant de se frotter à ça. Et puis même de voir à quel point on peut endurer aussi une forme de souffrance. Bon, tout est relatif, hein, on parle d'un film, mais...
Oui, oui.
Mais quand même.
Mais ça a été long, ça a été violent, ça a été intense. Ouais. Non, mais vous avez le droit de le dire.
Mais
hein,
oui, c'est vrai que c'est agréable aussi de se confronter à une certaine dureté.
Et de s'éprouver soi-même.
De s'éprouver soi-même, exactement. Exactement, ouais. c'est intéressant. Ouais. Oui, donc c'était vraiment une expérience Oui, on peut dire d'une certaine façon que c'était plus qu'un film.
Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que vous accepteriez de revivre tant d'intensité, de dureté, une certaine violence aussi?
Non, parce
face
que
à un
j'ai pas le goût de la souffrance.
Ouais,
j'ai d'accord. profondément pas le goût de la souffrance. Et je pense que faire des films ou faire les choses avec amour et avec son cœur, c'est, enfin pour moi, c'est ce qui me nourrit le plus.
Il y a eu depuis le tournage de La Vie d'Adèle et la sortie de La Vie d'Adèle, voilà, il y a eu MeToo, mm-hmm. Il y a 3 ans, il y a 4 ans, enfin 3 ans et demi maintenant. Est-ce que vous avez pris la parole à ce moment-là aussi? Vous avez fait des déclarations dans le Guardian sur Harvey Weinstein. Vous vous étiez aussi exprimé avec beaucoup, je trouve, de courage et de liberté face à Abdelatif Kechiche, sans remettre en question jamais le travail et son talent. Mais,
ouais. Mais c'était étonnant quand même parce qu'à l'époque, quand j'ai dit. Je l'ai dit d'une façon, peut-être c'est sorti comme ça, puis ouais. C'était dans le feu aussi de la promotion du film, dans aussi j'ai été un peu galvanisée par le succès, donc je me suis donné la permission en fait de m'exprimer là-dessus, mais c'est vrai que c'est étonnant quand même comment les gens ont réagi quand j'ai dit qu'il avait été, qu'il nous avait maltraité sur le film. C'est quand même incroyable ça. Ouais, c'est un peu choquant. Quand même.
Oui, c'était un peu choquant, ça. En tout cas, c'était extrêmement démesuré.
Je me suis fait complètement. Enfin, il y a des gens qui m'ont défendu, mais il y a aussi une grande partie des gens qui m'ont complètement,
qui vous ont attaqué extrêmement violemment.
Qui m'ont attaqué très violemment, ouais, et puis
de façon déplacée, surtout en vous.
Oui,
vous
de façon déplacée, et exactement. Et tout d'un coup, ils ont. Mais parce que c'est Abdelatif Kechiche qui était malin sur. Qui a déplacé, en fait, le problème. Moi, j'expliquais à quel point ça avait été douloureux de faire ce film. Et que j'avais été victime d'un harcèlement moral et psychologique. Et tout d'un coup, il a déplacé le problème en le déplaçant sur un problème social
ouais,
qui n'était absolument pas. Enfin, je veux dire, tout d'un coup, le fait que je m'exprime, j'avais pas le droit de m'exprimer parce que.
Oui, parce que vous venez d'une famille de
oui, enfin, je trouve ça complètement absurde.
Ouais,
voilà.
C'est tout mélangé, en
oui,
effet.
Oui, c'est vrai que ça, c'est quand même, c'est rageant. Et puis, c'est douloureux, en fait. Parce que c'est vrai que on s'expose, on se rend pas compte. Enfin, c'est, ce métier, est compliqué aussi dans ce sens-là. Enfin, il faut être quand même assez courageux pour s'exposer comme ça. Et c'est vrai que j'ai été attaquée et que ce n'est pas sans peine.
Avant de revenir à vous, Léa Seydoux, de continuer à évoquer vos peines et vos joies, je vous propose de nous pencher sur l'actualité culturelle des jours à venir, des rendez-vous à ne pas manquer, repérés par l'équipe du Mac de l'été. Depuis près de 40 ans, les amoureux du piano sont au paradis chaque été grâce au Festival de la Rogue d'Anteron où se succèdent pendant près d'un mois en différents lieux les plus grands pianistes de la scène internationale. Jusqu'au 18 août, on pourra écouter les immenses Nelson Frère, Boris Berezovsky, Anne Kefelec, Arkady Volodos, entre autres. Le directeur du festival, René Marta, invite chaque année des maîtres, mais il est aussi un grand découvreur de talents. Il a notamment été l'un des premiers à programmer un excellent pianiste, un Alexandre Kantorov, qui vient il y a quelques semaines de remporter le prestigieux concours Tchaïkovski à 22 ans. C'est le premier Français de l'histoire à en être le vainqueur. Il y aura donc de fantastiques jeunes artistes dans les semaines à venir. On peut citer Benjamin Grosvenor, Lucas Debargue, Célia Onetto Ben Saïd ou encore Jean-Paul Gasparian. Et demain, c'est une pianiste que j'aime beaucoup qui sera en scène, Shani Di Luca, qu'on écoute dans le solfeggio de Carl Philippe Emmanuel Bach. Elle sera donc demain à 18h30 au cloître de l'abbaye de Silvacane et en live avec nous, je vous l'annonce, vendredi dans le Mag de l'été.
C'est un dessin que j'ai réalisé à l'encre de Chine, à la plume, plume sergent-major, comme vous pouvez voir ici. Donc ce dessin est une reprise de la scène de Léonard de Vinci, dans laquelle j'ai modifié des éléments. Donc par exemple, les apôtres ne sont plus des apôtres, ce sont des patriarches, des capitalistes cyniques, que j'appelle aussi parfois des banksters, et qui se régalent des restes du monde de la manière la plus cynique qu'on puisse imaginer.
Il ne vous reste qu'une semaine pour découvrir l'exposition Hey à la Halle Saint-Pierre dans le 18e arrondissement de Paris. Pour la 4e fois, la revue d'art Hey, Modern Art et Pop Culture investit les lieux. Les fondateurs Anne et Julien présentent une trentaine d'artistes à l'univers singulier. Pour le couple, l'art doit être une expression des émotions sans prétexte ni alibi. De l'audace à l'état brut pour cette exposition visible jusqu'au 2 août.
Tu vois, il faut surtout pas que la mayonnaise prenne.
Quoi ?
Dès que ça commence à prendre, tu rajoutes le vinaigre, le sel et la ciboulette.
Tu l'as trouvée où, la ciboulette ?
Secret.
La ciboulette me déçoit toujours.
Ah, les voix de Catherine Deneuve et de Monique Mélinon dans Généalogie d'un crime du génial Raoul Ruiz qui ressort en copie restaurée mercredi prochain, le 7 août, avec trois autres films du réalisateur chilien, Trois vies et une seule mort, Le temps retrouvé, dont on entend la fameuse sonate de Vinteuil, ainsi qu'un film dans lequel vous jouez, Léa Seydoux, Les mystères de Lisbonne.
Ah, les sentiments, c'est... Même dans des structures les plus abstraites, les sentiments fonctionnent comme un élément moteur. Hein. Il n'y a pas de... L'intelligence est toujours émotionnelle, quoi qu'on dise. Et même si on parle de l'intelligence émotionnelle comme un cas particulier, c'est l'émotionnalité partout.
L'émotionnalité partout, ça vous parle,
Léa Seydoux ? L'émotionnalité partout ?
Ouais. Ce que dit Raoul Ruiz.
Ça me parle, mais en même temps, je trouve ça assez... C'est un peu abstrait. Enfin, en même temps, il essaye d'expliquer une chose qui est un peu abstraite.
Oui.
Donc, il l'explique de façon aussi abstraite.
Vous aimiez beaucoup, je crois, Raoul Ruiz. Hein,
Oui, enfin, j'aime beaucoup. Je l'ai pas beaucoup connu, malheureusement.
Vous étiez toute jeune quand vous avez tourné avec lui dans Les Mystères de Lisbonne.
J'étais très jeune et j'ai eu très peu de jours de tournage.
Ouais. Mais j'ai quand même eu... C'est un beau rôle que vous avez...
Ouais. Non, mais j'ai quand même eu un petit moment avec lui qui me reste en mémoire.
Et alors, il a une façon de travailler très particulière, hein, Raoul Ruiz, je crois. C'est-à-dire qu'il donne le texte vaguement le matin. Il laisse les acteurs un peu livres à eux-mêmes. Il les laisse tranquilles, il les prend pour ce qu'ils sont. Est-ce que vous aimez aussi, par moments, alterner avec des réalisateurs qui dirigent énormément, puis des réalisateurs comme ça qui vous filment et qui aiment ce que vous êtes et qui vous laissent une grande liberté et qui permettent aussi un abandon de vous-même, comme vous disiez tout à l'heure.
Vous savez, j'ai pas de méthode, enfin, il n'y a pas une méthode que je préfère plus qu'une autre. Je ne sais pas. J'aime les metteurs en scène qui sont avec qui il y a un dialogue, qui sont des interlocuteurs. Un film est toujours l'œuvre d'un metteur en scène, donc c'est lui le chef d'orchestre, donc je l'écoute.
Raoul Ruiz parlait de sentiments. Vous avez dit pas mal que c'est le pouvoir d'émotion du cinéma qui vous a donné envie de devenir actrice.
Ce qui m'a donné envie d'être actrice, c'était juste j'avais envie d'être libre. Je trouvais la vie d'un acteur formidable.
Ouais.
C'est plus pour la vie autour que j'ai voulu être actrice.
Ah, c'est vrai, pour ce qu'il y a autour.
Ouais, c'est pour ce qu'il y a autour. Je trouvais que c'était quelque chose qui me convenait assez bien. J'aime profondément, je suis très attachée à cette vie de nomade, en quelque sorte. Et puis de découvrir tous ces pays, de me retrouver dans des chambres d'hôtel. Même quand j'étais à Roubaix, par exemple. Enfin, je veux dire, j'adore, j'aime cet isolement, être décentrée de mon repère.
Et vous êtes aussi assez contemplative.
Ouais, j'ai un côté assez contemplatif. Ouais. En fait, j'ai un rapport au temps qui est assez particulier. Ouais. C'est-à-dire que ou je vais très très vite, ou je vais très très lentement. Voilà, j'aime que le temps s'étire. Avoir le sentiment de le dompter un petit peu, parce que c'est une chose qui est un peu liquide, le temps, c'est...
Et qui vous fait peur ?
Oui, bien sûr. Et à la fois, parfois, j'aime quand ça va très très vite. Tout est une question de rythme.
Summertime, and the living's easy. Rallies on the microphone with Ross MG. All the people in the dance will agree that we're well qualified to represent the LBC. Me and Louis, we gonna run to the party and dance to the rhythm, it gets harder. Me and my girl, we got this relationship. Summertime.
SMG. All the people in the dance will agree that we're well qualified to represent the LBC. Take this veil from off my eyes. My burning sun will someday rise. So what am I gonna be doing for a while? Said I'm gonna play with myself. Show them how we come off the shell. Summertime.
C'était pas Summertime, mais Doing Time par Lana Del Rey.
Duh. Anna Sigalevitch, le Mac de l'été sur France Inter.
De temps en temps, tout le monde se fatigue de métier, mais je suis dans une transition entre mon métier et j'ai pas encore exactement trouvé le métier que je voudrais faire, mais je crois que quand je finis mes films, je vais trouver quelque chose d'autre à faire. On n'est jamais satisfait dans la vie, je crois. Toujours il y a les disappointements dans la vie. Et c'est difficile pour dire, oh oui, j'ai tellement satisfait. C'est impossible. De temps en temps, tout le monde dit, pourquoi je fais ça?
C'était donc Marlon Brando en 1965 au micro de Tessa Sigrist. C'est un acteur aussi pour lequel vous avez une passion.
Mm-hmm. Ouais. Ouais, j'adore. J'adore ce que je dis, j'adore. Oui, non, j'aime beaucoup Marlon Brando parce qu'il a cette sauvagerie, cette animalité, cette pudeur. Mais ce que j'adore chez lui, c'est son côté féminin. Je ne sais pas si je peux dire une contradiction ou un paradoxe, mais c'est ce qui me plaît aussi dans la vie, avec le moment, comme je disais tout à l'heure, une forme d'affaissement, où on capitule. Il y a aussi cette chose de la féminité, de la masculinité qui me plaît énormément.
C'est intéressant parce qu'il y a quand même beaucoup de metteurs en scène qui parlent de vous en disant « Léa Seydoux, c'est à la fois une immense sensualité, une extrême féminité, et en même temps, elle a quelque chose de viril, elle a quelque chose de masculin, elle a quelque chose de petit mec, en fait, aussi, Léa Seydoux. »
C'est vrai. Non, mais c'est vrai. Je me sens homme aussi, complètement.
Léa Seydoux, vous allez donc vers des rôles très différents, des metteurs en scène très différents. Est-ce que, à l'instar d'actrices comme Isabelle Huppert ou comme Juliette Binoche, est-ce que vous êtes active dans votre recherche de rôle ou est-ce que vous attendez qu'on vienne plutôt vous chercher? Enfin,
non, maintenant c'est quelque chose que je fais. Et c'est vrai que Arnaud Desplechin, je suis allée le chercher.
Léa Seydoux, on va écouter à nouveau la réalisatrice Rebecca Zlotowski, qui a, je crois, une petite question à vous poser.
Je me demande, il y a une personne dans la vie de Léa Seydoux que j'ai souvent croisée à ses côtés, qui, dont je me demande quels sont leurs liens, c'est le lien qu'elle a avec son agent Grégory Veil. Faire le bon choix au bon moment. Est-ce qu'elle en parle beaucoup avec Grégory Veil? Quelle est son implication là-dedans? C'est quoi leur lien? C'est quoi leur rapport?
Alors, Léa Seydoux, quel est votre rapport, quel est votre lien avec Grégory Veil, qui est donc un très grand agent, qui vous suit depuis vos débuts, hein?
Grégory, c'est mon sauveur. Grégory, c'est vrai que c'est une des personnes les plus importantes dans ma vie. Je pense que c'est en grande partie grâce à lui
si je fais la carrière que
je fais, ça c'est indéniable. Ouais. On a une relation de travail, hein. C'est vraiment principalement une relation de travail, mais c'est quelqu'un qui. Moi, c'est quelqu'un qui m'a sauvée d'une certaine façon.
Quand vous dites sauvée, parce qu'il a cru en vous de façon acharnée.
Il a cru en moi de façon acharnée. Il a toujours été là pour moi et surtout c'est son enthousiasme à chaque fois renouvelé. Il n'y a jamais eu un moment où je l'ai senti lasse. Mm. Je pense qu'on a des goûts en commun, des goûts de cinéma en commun, ça c'est évident. Et oui, c'est mon allié principal. C'est.
Ouais. Et par exemple, s'il vous dit moi, je pense que tu devrais faire ce film, Léa, et que vous n'avez pas envie, ou le contraire.
Oui, c'est déjà arrivé, ça.
C'est déjà arrivé.
Il m'a déjà dit de faire des films que j'ai faits et que j'ai pas trop aimé ensuite. Ouais. Je lui ai dit, oh, mais tu vois, je savais qu'il fallait pas le faire. Il y a des films qu'il m'a dit de faire, et là, j'ai résisté. J'ai dit, non, je veux pas les faire, et que je n'ai pas fait. Mais en général, on est très vite d'accord sur ce qu'il faut faire ou ne pas faire.
Ou ne pas faire. Ouais. Est-ce que vous êtes au courant de tous les scénarios qu'on vous propose ou est-ce que ça filtre
majoritairement, quand même pas mal? Oui, je les ai quand même. Ensuite, c'est vrai qu'il y a des scénarios. Bon, ben, c'est sûr que quand Arnaud Desplechin arrive avec un scénario, on est très excité.
On lit plus vite
que d'autres.
Mais en même temps, est-ce que vous laissez la place à la possibilité de découvrir un premier scénario?
Oui, bien sûr.
Et lui vous pousse aussi
oui,
à ça?
Totalement. Oui. Non, totalement.
Parce que, enfin, je trouve qu'on peut observer par moments certaines carrières en fonction des agents. Et c'est assez frappant de voir, j'ai observé ça avec plusieurs acteurs, des changements d'agents orientent les carrières de façon radicalement différente.
Ouais, c'est vrai.
Et les carrières peuvent devenir plus commerciales, mais se tarir plus vite parce que l'exigence se perd.
Ouais.
Et vous, il y a quand même un équilibre qui est assez incroyable entre l'alternance donc de films extrêmement exigeants, des rôles complexes, où on vous voit d'une certaine façon, et puis le plaisir d'un cinéma populaire où, enfin, moi j'adore vous voir aussi dans un James Bond, et le fait de combiner tout ça, c'est aussi grâce à lui. Hein.
C'est grâce à lui. Alors non, enfin, ça je pense que c'est aussi ma capacité à me transformer d'une certaine façon.
Oui.
Donc je peux investir tous ces univers, on va dire. Mais c'est sûr que les choix que je fais sont toujours de concert avec Grégory. Mes choix, ma carrière, si on peut appeler ça comme ça, me ressemblent, c'est sûr.
Alors chaque jour, Léa Seydoux, nous brosserons une sorte de petit portrait chinois de nos invités avec des questions glanées dans différents questionnaires. Hein. Celui, par exemple, de l'écrivain suisse Max Frisch, celui de Proust. Ça pourrait être aussi des questions qui seront inventées par nous. Hein. Ça va être assez libre, Léa Seydoux. Alors, si vous êtes prête, c'est parti pour la séquence portrait chinois. Léa Seydoux, si vous étiez un mot.
En fait, j'aimerais bien que vous répondiez à cette question.
Moi, si j'étais
parce
un mot.
Parce qu'en fait, ce qui m'amuse, c'est pas tant. Enfin, c'est vrai qu'on parle beaucoup de soi. En fait, ça m'intéresse plutôt l'effet que je produis m'intéresse plus finalement. Oui, d'une certaine façon, oui.
Mais bon, alors, je vais le faire.
Okay. Ouais, d'accord, ok.
Okay. Alors,
si j'étais un mot, ouais.
Alors, vous voulez me poser des questions? Je vous donne mon questionnaire. On va inverser, ok. Je vous donne mon questionnaire et c'est moi qui vais répondre aux questions. Mais je parle de vous, hein.
Bah, bien sûr.
Oui.
Alors, donc, si j'étais un mot.
Héroïne.
Ok. Si j'étais une odeur.
La fleur d'oranger.
Parce que je mets en.
Bah oui, vous sentez la fleur d'oranger.
D'accord. Bon, c'est vrai que j'aurais pu répondre à cette question.
Alors, allez-y. Donc là, c'est moi qui reprends la main. De quoi êtes-vous reconnaissante, Léa Seydoux ?
Je suis reconnaissante de cette vie. Je crois que j'ai la vie que j'avais envie d'avoir enfant. Et ça, c'est merveilleux.
Et rare. Hein. Mm-hmm. Quel espoir avez-vous abandonné ?
Je suis pas vraiment du genre à abandonner, déjà. Mais l'espoir, non, l'espoir... J'ai pas abandonné d'espoir.
Tout est encore possible ?
Non, parce que le temps passe et que je n'ai plus 20 ans, même si je suis pas... Même si je suis... Le temps qui passe est une chose, est une question qui me taraude. Donc il y a un moment où on est... C'est sûr qu'à 34 ans, on n'a plus la possibilité d'espérer, de s'imaginer. On n'a plus la possibilité de s'imaginer.
Oui, on est quand même,
exactement. Donc ça, cette chose-là, elle est... Ça, je trouve ça dur de plus pouvoir se
rêver ailleurs. Moi, j'ai l'impression que tout est encore possible.
Oui, bien sûr. Oui. Non, mais bien sûr. C'est-à-dire qu'il y a encore beaucoup de choses possibles, mais quand même. Il y a cette jeunesse qui s'en va.
Ces fous qui se mettent à nu, qui sont à bout, qui n'en peuvent plus de voir les fous partout. On y prend goût, mais je me passerai bien de lui, j'avoue. Il est saoul, il fait des bleus, il mène à bout, il pique les yeux. Il me rend flou, c'est fou. Je me noie dans l'eau de la des ruines de l'eau des vies.
Le fleuve doux de Kerenan, extrait de son album Bleu. Alors c'est le morceau de la playlist Inter que nous avons choisi pour vous aujourd'hui avec Elsa Béranger qui sera notre programmatrice musicale tout au long de ce mois. Merci infiniment Léa Seydoux d'avoir inauguré avec nous le mag de l'été du mois d'août. On vous laisse filer retrouver votre costume de James Bond Girl et Daniel Craig aussi, pas mal. Alors pour ce film, il faudra donc faire preuve d'un petit peu de patience, mais vous serez dans quelques semaines, le 21 août, à l'affiche du nouveau film d'Arnaud Desplechin, Roubaix, une lumière, un très beau film dont nous reparlerons plus longuement sur cette antenne. Je remercie chaleureusement l'équipe du Mag de l'été qui depuis plusieurs semaines s'est engagée avec beaucoup de ferveur dans la construction et la préparation de cette émission estivale. Clément Baudet avec aujourd'hui Étienne Bertin à la réalisation, Élodie Royer et Marion Philippe pour la préparation avec l'aide de Maëlane Loaec. La prise de son était assurée aujourd'hui par Léo Prangère. On se retrouve demain en compagnie de Nicolas Bouchot, un comédien hors norme qui crée l'événement à chacune de ses apparitions sur une scène de théâtre. Alors je vous donne un petit avant-goût hein, de nos invités de la semaine. Mercredi, nous serons en compagnie de trois artistes du festival Paris l'été, Christian Rizzo, Joseph Nadj et Caroline Nguyen, ainsi que son programmateur Stéphane Ricordel. Jeudi, émission Maradona. Je vous ai dit qu'il y aurait du sport avec la sortie d'un documentaire qui lui est consacré, Diego Maradona d'Asif Kapadia. Et vendredi, nous serons avec la merveilleuse pianiste Shani Di Luca qui sera, je le rappelle, demain en concert à la Roque d'Anterron. Dans quelques minutes après le journal, vous avez rendez-vous avec Yves Decamp pour Le Téléphone Sonne. Bonne soirée sur France Inter.